c'est Deleuze et Guattari 2, hein, le retour. Plateau qui s'appelle « Comment se faire un corps sans organes ?» Bon, c'est un programme, vraiment. Enfin, non, c'est même pas un programme, en fait. Ils se défendent que ce soit un programme, d'ailleurs. Tous les mots sont, tous les mots comptent avec ces deux auteurs. Et donc, quand vous voyez CSO dans le texte, c'est pas une molécule, ça veut dire corps sans organes. Mais évidemment, ils sont très très contents que ça ressemble à une formule moléculaire. Ça donne un petit tour scientifique dur à leur exposé, qui est très à la mode à l'époque, qui est une vraie légitimation du discours philosophique, pas comme scientifique, mais comme plus fort que la science, et en même temps, légitimation et critique, quoi, du discours scientifique. Bon, donc ça va être la dernière séance de l'année, j'ai envie de dire, de la série, de ce long semestre. Alors, la dernière fois, on vous avait dit que un abord possible de 1000 plateaux, c'était d'appliquer la méthode que Deleuze applique lui-même aux philosophes, à Deleuze et Guattari. Cette méthode, elle consiste toujours à essayer de voir en quoi des... Bon, voilà, c'est envisager la philosophie comme une création de concepts. L'activité philosophique, ça consiste pas à réfléchir, ça consiste pas à essayer d'être sage. C'est une amitié avec la sagesse, c'est pas une sagesse. Philosophia. Et Deleuze comprend cette philosophia, cette amitié avec la sagesse, comme une activité de création de concepts. Pour lui, la philosophie, ça consiste à créer des concepts. Et ça n'est jamais aussi spectaculaire et aussi visible que dans les deux tomes de Capitalisme et Schizophrénie, l'Anti-Oedipe, premier tome, et 1000 plateaux, le deuxième, qui lui fait suite. 1972 pour l'Anti-Oedipe, 1980 pour 1000 plateaux. Donc, création de concepts. Et du coup, Deleuze explique que quand il lit les autres philosophes, il cherche toujours à voir à quel problème s'attaquent les concepts. Et généralement, les philosophes sont assez explicites sur les concepts qu'ils manipulent, ils les définissent, ils les articulent, mais ils ne formulent pas nécessairement les problèmes auxquels les concepts permettent de répondre. Dans l'abécédaire, Deleuze, sur l'invitation de Claire Parnet, qui lui fait une interview, en fait, vidéo, prend un exemple, que j'ai rapidement évoqué la dernière fois, il prend l'exemple de Platon et de l'invention chez Platon du concept d'idée. Avant Platon, il n'y a pas le concept d'idée. Le concept d'idée émerge avec Platon. Et c'est même le concept pour lequel il est passé à la postérité. C'est souvent de ça, surtout, qu'on parle en terminale, quand on est initié à la philosophie. L'année commence avec Platon, comme si la philosophie commençait elle aussi avec Platon, ce qui n'est pas vrai, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Et l'une des choses qu'on retient de Platon, c'est qu'il a inventé le concept d'idée. Donc une idée, c'est quoi, dit Deleuze ? L'idée, c'est le concept d'une chose qui ne serait qu'elle-même. Et il prend tout de suite un exemple, parce qu'il est gentil. Le concept de mère qui ne serait que mère. Généralement, une femme est de toute façon une fille, souvent une sœur et souvent une mère. Mais Deleuze dit, si on veut essayer de se figurer le concept d'idée, il faut essayer d'imaginer une mère qui ne serait que mère. Ça, c'est l'idée de mère. Donc c'est une chose en tant qu'elle n'est qu'elle-même. Et Platon applique ce concept à toutes les choses. Il cherche derrière toutes les choses l'idée qui les perçoit dans leur forme pure. Donc une table qui ne serait que table, qui contiendrait en elle toutes les tables, ça veut dire qu'elle pourrait avoir plusieurs pieds, par exemple. Il y a plusieurs possibilités de pieds. Ici, c'est des tables à quatre pieds, mais on peut imaginer des tables à trois, on peut imaginer des tables suspendues par le plafond. Qu'est-ce que c'est qu'une table? C'est surtout une surface sur laquelle reposent des choses, sur laquelle peuvent reposer des choses. Voilà, on pourrait dire que c'est ça, le concept de table. L'idée de table. Voilà, Deleuze commence par expliquer ça, donc c'est très agréable, parce que d'un coup, on comprend ce que c'est qu'une idée clairement, alors que généralement, on pédale dans une sorte de semoule confuse en terminale, et puis on garde cette idée, cette impression confuse longtemps après. Et donc, il nous a expliqué ce que c'était qu'un concept, mais pour lui, ça, c'est rien. Quand on a fait ça, on a fait juste un peu d'histoire des idées. On a donné une définition, mais on n'a pas donné une nécessité. Pourquoi est-ce que Platon a besoin d'inventer un concept comme celui-là, à l'époque où il le fait? Donc, c'est ce que j'évoquais rapidement la dernière fois. Platon dit, voilà, les Grecs, c'est une formation sociale. Donc il essaie toujours de rattacher les concepts qui émergent aux formations sociales dans lesquelles ils émergent. C'est pas tout à fait la même chose que donner le contexte, comme on dit régulièrement, c'est un peu plus vaste que ça. La philosophie et la philosophie platonicienne émerge dans une formation sociale qui est celle des Grecs et qui consiste à inventer la démocratie. Donc, qui n'est pas une démocratie absolue, on le sait, c'est la démocratie des aristocrates. Il y a des esclaves, les femmes n'ont pas le droit de vote, qu'elles soient membres de l'aristocratie ou pas. Mais c'est une certaine idée de l'égalité entre les hommes libres. Pour nous, c'est connoté de façon très positive, ça, parce qu'on a appris à l'école que la démocratie, c'était bien, et que c'était mieux que tous les autres systèmes politiques. Seulement, ce qu'on ne s'est pas forcément figuré à travers l'école, c'est que la démocratie, en fait, c'est l'invention de la concurrence. Non pas la concurrence commerciale, mais, comme dit Deleuze, c'est l'affrontement des prétendants. Quand n'importe qui est susceptible d'être le chef, comment est-ce qu'on choisit le chef ? Donc Deleuze montre que dans une société comme celle-là, dans une formation sociale comme celle-là, ce dont on a besoin, c'est d'un étalon. Donc pas un cheval, mais qui a donné le sens au cheval, c'est-à-dire une idée de la perfection. Pour déterminer parmi des hommes libres et tous égaux qui peut prétendre aux positions de domination, il faut un étalon du chef. Donc ça, c'est valable pour commander, c'est valable aussi pour la justice. Quand tous les hommes sont libres, quand il y a un conflit, qui a le droit pour lui ? Donc là, c'est pas qui a le pouvoir, c'est qui a le droit. Comment est-ce que la justice va trancher ? Elle peut pas trancher, comme elle peut le faire dans d'autres formations sociales, en mettant simplement les opposants en prison par rapport à un régime politique qui n'accepte aucune contestation. Il y a un appareil judiciaire qui part du principe qu'il y a des hommes égaux les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour trancher ? Il faut un étalon de la justice. Il faut, en d'autres termes, vous aurez compris, une idée du juste. L'étalon dont on a besoin socialement, ça correspond à peu près à ce que Platon formule comme l'idée. L'étalon, c'est la chose en tant que pure. Donc on se construit un étalon du chef, on se construit un étalon de la justice, on se construit un étalon de la poésie, de la République. Selon les dialogues de Platon, y a un problème différent à chaque fois. L'étalon du beau, bien sûr, ça c'est très important. Ce que Deleuze nous dit, c'est que quand on construit une société concurrentielle entre des hommes égaux, il faut des étalons. Et comme par hasard, à ce moment-là, déboule un type qui s'appelle Platon, et qui va reficeler, qui va reformuler la philosophie strictement orale d'un type qui s'appelait Socrate, qui n'a jamais rien écrit, qui ne voulait pas écrire, qui n'aimait pas l'écrit, qui disait qu'il fallait uniquement parler pour philosopher. Donc ce type vient derrière, et en fait il fait tout le contraire de Socrate, c'est-à-dire qu'il fige un enseignement en tirant une série d'étalons. Et Deleuze nous dit... Ça vient répondre au problème de la formation sociale grecque où on a besoin justement de pouvoir déterminer qui est le bon prétendant à la justice, à la chefferie, à la beauté, quand on est sculpteur, comme dans le Protagoras, etc. Donc voilà l'une des méthodes de Deleuze pour parler de philosophie. Et du coup, je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait essayer d'appliquer cette méthode-là à la philosophie de Deleuze et Guattari elle-même. Là, je reprends à peu près Deleuze, je suis obligé d'aller plus vite que ce qu'il dit. Donc la dernière fois, j'ai essayé d'appliquer cette méthode-là à la philosophie de Deleuze et Guattari elle-même, telle qu'elle est formulée là-dedans, à propos de deux problèmes, justement, centraux, qui sont l'État et le corps dans, notamment, son fonctionnement inconscient. Puisque l'inconscient, on sait que c'est plus quelque chose de spirituel, ça relève plus de l'âme, c'est une séparation entre l'âme et le corps qui est plus valide. Dans la perspective de, disons, de la psychanalyse et de ce qu'en font Deleuze et Guattari. Et en m'attaquant à ces deux problèmes, j'essayais de voir en quoi ça nous permettait de comprendre le titre des deux volumes, le titre commun aux deux volumes, Capitalisme et Schizophrénie. La question du capitalisme, elle est en connexion avec le problème de l'État. L'État comme formation politique qui est, à l'époque où Deleuze écrit, c'est toujours le cas aujourd'hui, traversée par un système économique qui s'appelle le capitalisme. Et la schizophrénie est un concept, disons, qui vient ouvrir le problème du corps et de l'inconscient, tel qu'il a été posé par toute la génération de Deleuze et Guattari et les générations qui ont précédé. Donc il déplace la réponse, disons, psychanalytique du corps et de l'inconscient à travers le repérage de névroses, en disant il n'y a pas que les névroses dans le fonctionnement du psychisme, il y a aussi la schizophrénie, donc la pulsion, le mouvement, qui tire les individus vers le désir d'être pluriel, d'être multiple. Et pas seulement de multiples individus, mais des individus connectés avec autre chose que des individus. On a tous ça plus ou moins en nous. Il n'y a qu'à voir l'attachement qu'ont les gens pour les animaux domestiques, par exemple. Une manifestation évidente du fait qu'on ne se contente pas d'être ce qu'on est, qu'on ne se contente pas d'être humain. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'essaierais de m'attaquer à deux autres problèmes qui donnent lieu à des concepts chez Deleuze et Guattari et qui étaient le signe et le langage, la question du signe et du langage, et puis la question des structures et des échanges. Voilà, je vous avais parlé de ça. En fait, en préparant cette dernière séance, je me suis dit que c'était pas comme ça que j'avais envie de présenter les choses. C'est des problèmes que je vais retraverser, mais il me semble que l'ouvrage est tellement massif, et Deleuze proposant lui-même une approche de la philosophie, c'était très tentant d'essayer de l'appliquer à sa propre œuvre. Mais il me semble que j'ai un peu perdu de vue de la perspective que j'ai essayé de tracer depuis janvier, et qui était « qu'est-ce que ces œuvres m'ont fait ?» dans le travail. Donc, je peux vous faire des parallèles entre les deux thèmes de la dernière fois et ce que ça m'a fait dans le travail, très clairement. Mais j'avais envie de repartir de ce point de vue-là aujourd'hui pour clore artificiellement les choses que j'ai à vous dire de cet ouvrage. Et du coup, ça va m'amener à reparler un petit peu de l'état, surtout en tant que l'état engendre deux choses avec lesquelles je suis en travail quotidien, qui sont l'école et la langue. C'est des poupées qui s'emboîtent, en fait. L'État, depuis Jules Ferry, au moins, école obligatoire, c'est vraiment l'entité qui s'occupe principalement de l'école. Bien sûr, il y a des écoles privées, il y a un enseignement obligatoire qui passe par l'école d'État. Et dans cette école d'État, on apprend une certaine façon d'utiliser la langue. Donc ça, c'est des problèmes qui sont pour moi cruciaux, notamment du fait que, comme tout le monde, je suis allé à l'école, mais que, en plus, c'était redoublé, dans mon cas, par le fait que mes parents étaient enseignants. Étaient enseignants, aujourd'hui, ils sont à la retraite. Donc c'était à la fois des parents et des représentants de l'État, de l'école, de la langue, puisque j'étais prof de langue. Et en plus de deux langues étrangères, l'anglais et l'espagnol. Donc, en fait, je pense que quand j'ai lu ce truc, c'est venu fumer des structures qui étaient très solidement ancrées dans ma tête, pour ouvrir autre chose. Ça m'a aidé à ouvrir. Pas forcément à détruire, c'est pas juste une histoire de punk, quoi. C'est pas juste une attitude de révolte. C'est comme si, d'un seul coup, dans un mur, il y avait deux grandes fenêtres qui s'ouvraient, et qui apportent de l'air, mais aussi du paysage, de la vue, de l'iode, toutes sortes de choses. Bon, ça, c'est vraiment... Ces trois poupées russes, là, c'est des choses dont je voudrais vous reparler. Parce que je crois que c'est... Si je veux être honnête avec ce bouquin et dans ce que j'ai à vous en dire, il faut que je passe par là. Il faut que j'essaie de vous expliquer quelle boîte à outils ces auteurs venaient me donner face à ces problèmes. Et comment, du coup, ça ouvrait le travail d'écriture. Comment ça déverrouillait le travail d'écriture. Et puis, l'autre grand problème... Et voilà, alors quand je dis problème, c'est pas seulement, disons, au sens avoir un problème avec... C'est au sens où un problème, c'est comme un problème de maths, quoi. C'est quelque chose qui se résout. C'est quelque chose qui... C'est un peu comme une énigme, quoi. Il y a des données, et puis il n'y a pas une solution. Ça, c'est un peu la différence avec la plupart des problèmes de maths, encore que c'est ceux qu'on apprend à l'école. Mais il y a un mathématicien dans la salle qui pourrait certainement nous dire qu'il y a pas mal de problèmes qui ont plusieurs solutions. Il y a des réponses, en tout cas, ou il y a des pistes. Donc l'autre grand problème, c'est le christianisme. Il y a dans Mille Plateaux, il y a des grandes fenêtres qui s'ouvrent pour quelqu'un qui a été formé au christianisme, disons. Donc comme c'est le cas de pas mal d'entre nous, que ce soit directement ou indirectement, puisque le christianisme, il structure notre société, y compris dans des éléments très laïques, qui sont des héritages du christianisme. Notamment, pour prendre qu'un seul exemple, le fait que la République se présente comme une et universelle. Ça, c'est deux attributs divins, en fait. Le un et l'universel, c'est deux attributs divins, qui, par une histoire très spéciale, passent du plan de ce qu'on appelle la transcendance, donc un plan qui est spirituel, qui est séparé de la terre, à l'immanence, à la vie politique. Voilà. Donc le christianisme nous structure, y compris pour ceux d'entre nous qui n'ont aucune éducation religieuse. Pour vous dire ça de façon un peu synthétique, Mille Plateaux, pour moi, ça a été comment dénaturaliser la croix et l'état central pour réouvrir la vie à l'expérience. Alors, je vais un peu préciser chacun de ces termes, mais je crois que c'est bien que vous ayez une formule comme ça un peu resserrée. Mille Plateaux, ça m'a aidé à dénaturaliser la croix, donc en tant que symbole de tout le christianisme, quoi, la croix pour le christianisme, et l'état central pour ouvrir la vie à l'expérience. Aider davantage ouvrir la vie à l'expérience. Alors là, tous les mots comptent. Par dénaturaliser, donc j'entends pas dénaturer, hein, c'est pas la même chose. Dénaturer, c'est détourner de sa nature. Dénaturer un propos, c'est lui faire dire ce qu'il voulait pas dire. Là, par dénaturaliser, ce que j'entends dire, c'est que quand on est un enfant, on reçoit une éducation. Enfin, c'est la première qu'on reçoit. On reçoit toujours une première éducation. Parfois, on en reçoit d'autres. Mais cette première éducation, elle est tellement englobante, elle est comme un bain. Donc, l'enfant l'envisage comme si c'était naturel. Il y avait l'école, il y avait Jésus, il y avait le président de la République, comme il y avait les saisons. C'est perçu comme ayant toujours été et étant appelé à toujours être par un enfant. Donc ce que je veux dire par dénaturaliser, c'est qu'un livre comme Mille Plateaux vous aide à voir le plan qu'il y a derrière ces choses que vous recevez enfant et à envisager presque une autre éducation possible, d'autres éducations possibles. Donc c'est ça que j'entends par dénaturaliser. Donc la croix comme symbole du christianisme, l'état central comme formation sociale particulière, il y en a plein d'autres, même si c'est celle-là qui a gagné, entre guillemets, à l'échelle de l'histoire. Donc à l'intérieur de l'état central, une école centralisée, l'éducation nationale, et une langue nationale, avec tous les tiraillements que ça suppose, mais n'empêche, on se comprend de Lille à la Grasse, et de Ouessant à Strasbourg, pour tracer une croix dans le paysage. Sur la carte. Donc je vais essayer de vous donner des indications de ce que ça m'a fait Mille Plateaux. Le christianisme. Je vais essayer de vous indiquer les plateaux qui s'attaquent à cette question, à ce problème, pour rester fidèle à la terminologie de Deleuze, au fur et à mesure. Donc vous pouvez creuser particulièrement dans ce plateau qui s'appelle Année zéro, visagéité. Visagéité, le substantif construit à partir de visage. C'est le fait de produire du visage. Année zéro, visagéité, c'est le plateau 7. Bon, c'est un concept, hein, pour le coup, là, c'est un bon exemple de concept. La visagéité, c'est le concept qui permet de pointer la production du visage dans l'espèce humaine. Comment il y a certaines formations sociales, et pas toutes, qui produisent, à partir d'une tête, qui est déjà quelque chose de typiquement humain, un visage. Je vais essayer d'aborder la question du visage du Christ, telle qu'elle est abordée par Deleuze et Guattari. Il y a autre chose qui nous permet de parler du christianisme, c'est précisément ce plateau qui s'appelle « Comment se faire un corps sans organes ». Et ils utilisent Deleuze et Guattari beaucoup qu'Antonin Artaud, dans un texte qui est une sorte de bombe littéraire, qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Donc vous voyez, on est en plein dans la question du christianisme. Alors, par rapport à un autre symbole, par rapport, bon, le Christ, disons, c'est un personnage. C'est pas un symbole, c'est un personnage. La croix, c'est un symbole, par contre. La croix, c'est un symbole. Et je vous parlais de la croix comme étant l'une des choses que j'ai dénaturalisées avec Mille Plateaux. J'étais déjà dans une perspective athée, mais elle était très négative, très réactive. Avec Deleuze et Guattari, on peut prolonger le travail de Nietzsche, qu'il aurait certainement prolongé lui-même s'il n'était pas tombé malade, bon. En passant à un stade plus clairement créatif que négatif. Que destructeur. Nietzsche est souvent perçu comme un philosophe de la pure destruction, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est une bonne part de son travail, et il a pas pu tellement passer au stade de la création pure. Donc par rapport à la croix, au symbole de la croix, alors faut d'abord que j'en parle un petit peu, c'est un symbole extrêmement puissant, et il est pas mal traité dans Comment se faire un corps sans organes, puisque la croix produit à la fois une indexation de la vie, si on perçoit la vie comme ce qui se passe au ras des choses, une indexation de la vie sur la transcendance. L'axe vertical vient servir de point de référence pour tout ce qui est horizontal. Donc c'est un peu le travail qu'a fait Platon avec les idées, mais appliqué à travers un personnage qui est celui du Christ, et qui a souffert pour tout le monde. La fonction du Christ, c'est de racheter la faute de l'humanité. L'humanité est perçue comme fautive et le Christ la rachète. C'est-à-dire que l'immanence, la vie des hommes, est perçue d'abord comme quelque chose auquel il manque un plan. Le péché, c'est ça, c'est un manque. C'est pas parfait. Donc Jésus est un personnage qui est censé racheter ça, c'est-à-dire à la fois annuler le manque et créer une dette. Ça, c'est très important. Créer une dette. Il rachète, littéralement. Il rachète. Donc c'est un acte. C'est un acte d'échange, de richesse. Et cette dette, c'est là que Deleuze et Guattari prolongent Nietzsche, qui a eu une intuition géniale. Il montre que la tradition judéo-chrétienne n'invente pas la dette. La dette, c'est très important dans l'organisation sociale de la plupart des sociétés. Et dans les sociétés dites primitives, il y a des études sur la dette qui sont très très importantes. Par exemple, un texte de Marcel Mauss qui est très célèbre, qui s'appelle « Don contre don ». Bon, le concept central qu'il y a dedans, c'est l'articulation entre don et contre don. Les sociétés passent leur temps à échanger des choses, ou des personnes, très souvent des femmes. C'est des échanges qui permettent en fait une sorte de pacifisme. Quand une génération a donné une de ses filles, la génération suivante ne va pas faire la guerre parce qu'elle doit rendre une fille. Et donc ça a été pendant un certain temps dans pas mal de sociétés une manière d'acheter la paix sociale. Échange de richesses, échange d'épouses. Donc la tradition judéo-chrétienne n'invente pas la dette. C'est très important dans toutes les sociétés, le fait qu'il y ait des membres de la société qui donnent et qui faillent rendre en permanence. Chez nous, ça existe encore ce type de régime. C'est par exemple le troc entre voisins, l'échange de gâteaux contre services. Voilà, c'est des choses qui permettent la paix, quoi, qui permettent qu'il y ait des bons rapports de voisinage, qu'il y ait des relations. Bon. Les relations, ça passe beaucoup par les échanges de richesses, par des petites dettes, comme ça. On s'invite, on se réinvite, il faut faire attention. Chez Proust, c'est une obsession, par exemple. Ah, j'ai été invité tant de fois. Ah, il faut que je rende l'invitation. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai une amie qui s'était installée comme prof en Normandie, dans un tout petit coin où c'était... Ça sentait pas super l'air frais, apparemment. Et ce qu'on lui demandait quand le week-end venait, c'est « Alors, toi, ce week-end, non, tu reçois ou tu t'es invité ou tu reçois ?» Comme si c'était les deux sports, en fait. C'est cette idée-là que je veux pointer quand je vous dis que dans toutes les sociétés, il y a un rapport très fort entre relations sociales et dettes. Bon, mais ce que dit Nietzsche à la suite de Deleuze et Guattari, c'est que les judéo-chrétiens inventent un truc génial qui s'appelle la dette infinie. Donc c'est une dette non remboursable. Du coup, vous êtes tout le temps en faute. C'est jamais assez. Et le Christ est à la fois celui qui semble rembourser la dette et qui en fait la prolonge et l'universalise. Parce que chez les Juifs, ça concernait que les Juifs. Ça restait une catastrophe localisée. Mais avec Jésus et l'invention du christianisme, donc de l'universalité, c'est le péché du monde que Jésus enlève. Jésus enlève le péché du monde. Donc à la fois, on dirait qu'il rachète, et en même temps, évidemment, comme il rachète, bah, il redouble la dette. Du coup, ce que Deleuze et Guattari proposent par rapport à ce problème de la croix, c'est des livres d'images, c'est Deleuze qui le dit dans les entretiens. Mille plateaux, c'est aussi un livre d'images. Il y a une image au début de chaque plateau, qui est très, très frappante, très belle. Donc, au début de « Comment se faire un corps sans organes », page 185, l'image, c'est un œuf. L'œuf, ils en font quelque chose qui préexiste à la croix, dans l'ordonnancement d'un corps. La croix, c'est une sorte d'idéal du port du corps dans nos sociétés. Il faut voir l'obsession que ça constitue, la croix du Christ, sur 2000 ans. Je pense que c'est l'image qui a été la plus vue dans les sociétés chrétiennes, quoi, de très loin. Et c'est un corps qui est annexé à immanence, transcendance, et c'est la transcendance qui gagne, clairement. C'est un corps qui souffre, bien sûr, mais c'est un corps qui monte. C'est un corps qui est tiré vers le haut. Il va rejoindre le ciel. D'ailleurs, après, il y a l'ascension, qui est un passage qui fait beaucoup rêver les enfants, souvent, parce que c'est le côté Superman de Jésus, donc là, il redevient brièvement fréquentable pour les enfants. C'est très difficile à se figurer, c'est très très marrant de faire un atelier avec des petits chrétiens pour voir comment ils se figurent l'ascension. Je pense qu'on verrait des orteils, un peu comme quand Obélix, vous savez, frappe un Romain, là, et il y a les sandales qui restent au sol et on voit que les pieds en haut, comme ça. Donc voilà, la croix, ça vient structurer le corps d'une certaine façon. Alors, mon idée, c'est pas de casser le christianisme, c'est pas de le mettre à mal. C'est juste que moi, ça m'a fait un bien fou de prendre une autre direction. Et pour ça, il fallait d'abord analyser ce que c'était que la croix, quel effet ça avait sur le corps. Donc c'est une sorte d'annexion du corps sur une figure géométrique qui l'attire vers le haut, vers l'idéal, vers l'idée, vers la transcendance. En fait, c'est un corps non-corps. C'est un corps qui rêve de plus être un corps. Si on pousse l'idéal jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'avec Nietzsche, Deleuze et Guattari et d'autres, on peut appeler un idéal ascétique. Pourquoi est-ce qu'ils partent de l'œuf? Parce qu'ils disent, voilà, il y a plein de sociétés dans lesquelles l'équivalent de la croix, c'est l'œuf, au sens où c'est ça le premier modèle reçu, mais c'est un modèle complètement différent. Et cet œuf, c'est un œuf dogon. C'est une représentation qu'ont les dogons, donc cette société du Mali, très spéciale, très ancienne. Et ils partent des considérations du savoir ethnologique qu'on a sur cette société pour dire, voilà, l'œuf, c'est très intéressant. Et ils se rendent compte que ça structure un certain nombre de textes littéraires, de textes mythologiques qui appartiennent pas aux Dogons, que l'œuf c'est une figure très importante comme contre-représentation du corps. C'est plus un corps qui est tiré vers le haut et qui rêve d'être un non-corps, c'est un corps plein. Et ça, on se le figure très bien. Un œuf, c'est l'idée du plein par excellence. Il n'y a pas de vide dans un œuf. On dit d'ailleurs plein comme un œuf. Donc il part de la perspective d'un corps plein. Le corps serait d'abord quelque chose de plein et pas quelque chose de tiré vers le haut et vers la négation de soi. Moi, j'ai eu des tantes, des grand-tantes qui avaient cette vision-là de la pratique, qui était vraiment celle d'attendre de mourir, quoi. D'attendre de plus être un corps. Bon, ça, c'est une certaine façon de recevoir le christianisme, il ne faut pas la généraliser. Hein. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec l'œuf ? C'est que c'est le modèle du corps sans organe, en fait. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le corps sans organe. Par exemple, Michel Onfray, il dit des bêtises terribles sur le corps sans organe. Il n'a pas compris, en fait. Et il n'a pas compris parce qu'il est trop attaché à ses histoires à lui. Pourtant, il doit beaucoup à Deleuze et Guattari. Là, il a arrêté de penser quand il se met à parler du corps sans organe. Il a écrit un truc en disant « le corps sans organe, c'est n'importe quoi ». Vous savez, il adore toujours se reporter à la biographie des auteurs pour montrer les contradictions et dire « regardez ». Il comprend le corps sans organe comme une autre négation du corps. Un corps sans organe, ce serait un non-corps. Si vous barrez les organes du corps, il ne reste plus rien. C'est ça que dit Onfray. Mais il dit du coup « Deleuze n'aimait pas manger, il était hypocondre ». Donc en fait, c'était une sorte de chrétien déguisé, quoi. C'est presque ça que dit Onfray. Mais un corps sans organe, c'est pas du tout ça. Un corps sans organe, c'est un corps qui n'est pas un organisme. Et un organisme, c'est quoi ? C'est une hiérarchie. Avec une tête en haut. Un organisme, c'est une certaine vision du corps sous la forme d'une hiérarchie. Il y a une hiérarchie des organes. Les organes sont toujours attachés à un organisme. Et cet organisme, il place des choses en haut et des choses en bas. Donc là, je pourrais vous parler de l'importance de quelqu'un comme Rabelais, par exemple, qui, d'après Bakhtin, un de ses plus grands critiques, au sens critique littéraire, hein, pas quelqu'un qui l'a attaqué, mais Bakhtin, c'est un critique russe qui a développé la question du bas corporel dans le travail de Rabelais, la promotion du bas corporel, qui est une sorte de jeu avec la représentation du corps chrétien. Ça consiste à inverser le code, quoi, à dire, tiens, moi je vais faire une promotion du trou du cul, une promotion des pieds, une promotion des organes qui sont des organes perçus comme ceux du bas, dans l'organisation hiérarchique du corps qui s'appelle l'organisme. Bon, le corps sans organes, c'est donc un corps, non pas un non-corps, c'est un corps plein. C'est un corps avant l'organisme. Donc, par exemple, dans l'expérience des enfants, des tout-petits, il y a, pendant un certain stade, une expérience très puissante du corps sans organes. Ils ne perçoivent pas leur corps comme organisé par des organes, justement. Ils perçoivent leur corps comme un corps plein, presque comme si c'était qu'une surface parcourue par des intensités. Ça, c'est le vocabulaire de Deleuze et Guattari, un vocabulaire en termes d'intensité. Donc ce qui les intéresse, c'est pas des ordres qui circuleraient dans une hiérarchie organique. Par exemple, le cerveau ordonne à la main de bouger, à la bouche de parler. Ce qui les intéresse, c'est de se dire que d'abord, le corps, c'est un corps plein traversé par des intensités. Donc ils prennent différents exemples de ces intensités, et l'une qui est très parlante, c'est évidemment c'est la faim chez le nourrisson. La faim, c'est une intensité. C'est quelque chose qui met le corps, qui rend le corps intense. Il n'est pas dans son état de repos, dans son état de sommeil, il est intense. Il crie, il empoigne, il bouge. Et un bébé se dit pas, il y a un rapport qu'ils analysent assez longuement, notamment grâce à Guattari, psychanalyste, qui a donc beaucoup travaillé sur le rapport mère-enfant, ils analysent beaucoup le rapport entre le sein et la bouche. Ils aiment beaucoup les couples comme ça. Les couples entre deux choses qui ont l'air séparées, deux corps qui ont l'air séparés, un sein et une bouche, le sein de la mère, la bouche de l'enfant, et qui sont en fait étroitement connectés, quoi. Et ils analysent le flux de lait comme un flux qui passe d'un corps à l'autre et qui vient combler le corps plein de l'enfant. C'est une intensité de plaisir qui vient combler l'intensité d'appétit, de faim. Donc le bébé, il se vit pas du tout comme un corps organisé par un organisme. Il se vit comme une sorte de corps plein qui a des intensités, qui est traversé par des intensités. Bon, alors vous voyez, bon, ils utilisent d'autres modèles et ils parlent beaucoup d'Artaud, donc qui, pour en finir avec le jugement de Dieu, a des phrases définitives sur la question des organes. Il supporte pas qu'on lui ait imposé un corps avec des organes, il déteste ses organes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des intensités. Et c'est pas une régression, il ne faut pas le voir simplement comme une régression. Parce que ce que Deleuze et Guattari s'intéressent beaucoup à ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes psychanalytiques, justement bien connus, le désir de régresser, de redevenir enfant. Bon. Ils disent que c'est pas une régression, ils disent que le corps plein de l'enfant est toujours notre contemporain, qu'on a toujours, toute notre vie, jusqu'à notre mort, jusqu'à nos derniers instants, cette expérience-là en nous, l'expérience du corps plein de l'enfant, et qui est un truc que, par exemple, on peut retrouver par moments quand on se baigne, quand on est comme ça, dans une sorte de plénitude, dans un milieu homogène, accueillant, chaud, qui fait de notre surface une pure intensité. Même quand on a froid, d'ailleurs, à la piscine, de certaines façons, c'est déjà un corps sans organes. C'est un corps plein qui a froid, qui a une intensité qu'il traverse. C'est très différent de même du corps du sportif, par exemple. Si vous êtes tennisman, par exemple, il y a une promotion de votre bras droit. C'est le bras droit qui commande. Les sportifs sont des corps vachement intéressants en termes de spécialisation, en termes d'organisme, justement. Ce dont il parle le plus, c'est du désir, justement. Et c'est là-dessus que pour moi, il y a eu quelque chose de très très important par rapport au désir, dans le fait de devoir dénaturaliser le christianisme. C'est que le désir du christianisme, donc dans ce système de dette infinie qui a été mis en place par les judéo-chrétiens, universalisé par les chrétiens, tous les hommes sont des gens qui sont en dette infinie par rapport à Dieu, le désir est, on le comprend assez bien, mais c'est déjà préparé par Socrate, Platon, est perçu comme un manque. Le désir, c'est quelque chose qui doit être assouvi. Et donc, comme c'est perçu comme un manque, c'est perçu comme un péché. Voilà, le péché et le manque, c'est pratiquement la même chose. C'est une imperfection. Et l'idéal ascétique, qui est cultivé dans le monde entier pendant des siècles, c'est l'idéal d'un désir enlevé du corps. C'est un corps qui n'aurait plus de désir. Le corps ascétique, c'est ça. Si le désir est un manque, on enlève le désir, comme ça le corps devient parfait. Le corps d'un ange, c'est un corps qui n'a pas de désir. C'est pour ça d'ailleurs que les anges n'ont pas de sexe. Ou qu'on ne sait pas trop quel sexe ils ont. Alors la proposition de Deleuze et Guattari, qui est une longue méditation par rapport à la psychanalyse, par rapport à l'anthropologie aussi, et notamment par rapport à l'anthropologie de Bateson, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est l'inventeur du concept de plateau. Le plateau étant un concept de sexualité au départ, que Bateson a étudié dans la société balinaise, dans l'éducation que les mères donnent à leurs enfants, en les maintenant dans une sorte d'intensité sexuelle constante, qui n'a pas de fin. Ça, c'est un plateau d'intensité. C'est là-dessus qu'ils vont construire leur concept de plateau. C'est la manière dont le désir chez les enfants est rendu étal par les mères, qui n'arrêtent pas de stimuler leurs organes sexuels, en fait. C'est une manière de les rendre sages, en fait. C'est un peu comme nous, la tutute. C'est une sorte d'équivalent de la tutute. Alors, que disent Deleuze et Guattari à partir de cette notion de plateau appliquée à une certaine définition du désir ? Pour eux, le désir, c'est pas un manque. Le désir, c'est une production. Le désir, c'est une énergie. C'est une intensité. Donc, c'est pas quelque chose qui doit être parachevé par quelque chose d'extérieur à soi, comme le plaisir, ou comme l'ablation du désir dans l'idéal ascétique, qui serait une autre réponse au manque. Leur idée est en fait très proche de l'idéal courtois, de l'idéal de l'amour courtois. Ils disent que l'amour courtois, c'est pas du tout un truc de coincé, de gens qui auraient peur de la sexualité. Ils font un parallèle avec le taoïsme aussi, parce que dans le taoïsme et dans le tantrisme, la sexualité de l'homme est perçue comme une sexualité qui ne doit pas forcément aboutir au plaisir, à l'éjaculation, à la semence. Ils disent qu'il y a une jouissance qui peut être propre à l'homme et qui est quelque chose qui n'a pas de fin, qui n'a pas un but à atteindre, qui n'a pas quelque chose d'extérieur à soi. Donc le désir, c'est très proche de cet élan vital dont j'ai parlé plusieurs fois dans les œuvres, en fait. C'est le désir de vivre, en fait. C'est le désir de se prolonger. Donc il n'y a aucun manque dans le désir. Le désir se suffit à lui-même, au contraire. Et c'est ça que, un, le christianisme, et deux, les états centraux, n'aiment pas. Le christianisme comme formation religieuse, comme idéologie, et l'état central comme formation sociale, essaye de grillager cette définition-là du désir, comme quelque chose qui se suffit à lui-même. Il cherche à rendre les corps et les consciences toujours dépendantes et toujours susceptibles de se percevoir comme en manque de quelque chose, toujours imparfaites. Voilà ce que cette vision du corps plein, du corps sans organes, du désir comme se suffisant à lui-même, permet de produire comme réflexion sur le christianisme en tant qu'un moment dans l'histoire, en fait. Qu'est-ce que ça a fait, le christianisme ? Et non pas comme quelque chose qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui est la seule possibilité, disons. Ça réouvre les possibilités par rapport à ce que moi j'ai reçu comme éducation. Donc Artaud, qui est souvent perçu comme un auteur torturé, etc., il est réenvisagé là par Deleuze et Guattari comme quelqu'un en fait qui ouvre la fenêtre, justement, qui à travers son expérience très douloureuse, et ils disent d'ailleurs Artaud n'a pas réussi pour lui-même, mais il a réussi quelque chose pour nous tous. Et ce quelque chose, je crois que c'est ouvrir des fenêtres. C'est juste voir qu'on a reçu comme un absolu et relatif. et qu'on peut faire autrement si on veut. Des auteurs comme Deleuze et Guattari, et vous le sentez bien même dans le ton très assertif que je prends en essayant d'expliquer leur travail, enfin, ils sont bien de leur époque, ils ont un côté un peu terroriste aussi, ils disent des choses comme si c'était des absolus aussi. Donc d'une certaine façon, ils créent des interdits en proposant comme ça des théories de la libération. Il y a toujours un petit côté obligatoire dans les théories de la libération, vous voyez. Il y a une dette quand il y a la prétention à dire à la vie ce qu'il faut qu'elle fasse, à donner un étalon à la vie qui est extérieur à la vie elle-même. C'est comme dire au désir qu'il a un manque. Enfin, une illustration de dire à la vie ce qu'elle doit faire, c'est dire au désir, tu es un manque, tu manques de quelque chose. Il y a des concepts qui ne sont pas du tout attachés au fait de donner un ordre à la vie. Alors, j'essaie de m'attaquer à cette question de l'état, l'école, la langue grammaticale. La langue en tant qu'annexée à une grammaire. L'état, on le reçoit quand on est en France, comme dans plein de pays. La plupart des pays sont des états. On le reçoit comme la formation sociale, sociopolitique, naturelle. Et c'est un des business de l'État, d'ailleurs, Deleuze et Guattari le disent très bien, de se faire passer pour la nature. Donc c'est une formation sociale parmi d'autres. Je vous ai parlé de Pierre Clastres la dernière fois, l'un des ethnologues auxquels Mille Plateaux rend le plus hommage, comme quelqu'un qui a montré toute la puissance de certaines sociétés qui cherchent à conjurer la formation de l'État en leur sein. Ne surtout pas créer de la centralité, ne surtout pas créer du stock de richesses qui va lui-même créer la nécessité d'une caste s'occupant de gérer le stock, donc la naissance des inégalités, etc. Comment est-ce que ça s'articule d'abord avec le christianisme ? Ça s'articule avec le christianisme autour de la figure de l'unité. Il y a une obsession dans le christianisme et dans ce type de formation sociale qu'est l'État, qui est commune, c'est d'avoir un centre, d'être unifié par un centre. Bon, pour l'État, c'est simple, c'est la capitale, qui est plus qu'un centre, qui est un système nerveux central, puisque depuis le centre part toute une administration, justement dite centralisée, et notre pays est un exemple de grande difficulté pour sortir de ce modèle politique, hérité de la monarchie absolue, et même avant qu'elle soit absolue, elle est déjà relativement puissante, relativement centrale. Dans l'ordre du christianisme, bien sûr, et c'est pas propre au christianisme, mais c'est distribué d'une certaine façon. L'obsession de l'un, c'est l'obsession de la figure divine. D'une certaine façon, la capitale est au pays ce que Dieu est à l'univers. C'est le centre. C'est le centre à la fois comme position qui permet de se repérer dans l'espace et comme position qui légitime toutes les autres positions. C'est à partir du centre que les autres positions ont leur valeur. Donc ça, j'en ai pas mal parlé la dernière fois, côté pas naturel de l'État, en fait. Du fait que c'est des avatars, il y aurait pu ne pas y avoir d'État. Là, aujourd'hui, ce que je voudrais plus détailler, c'est l'organe de formation des enfants, l'école, et à l'intérieur de cette formation, la langue qui est transmise. Et en quoi, justement, moi, ça appelle le travail d'écriture. La langue, alors, ça concerne pas juste... C'est ça qui est passionnant, d'ailleurs... Avec la langue, c'est que ça ne concerne pas juste ce qu'on appelle les cours de français. Le français, c'est la langue de toute l'école, de toutes les matières. Même quand on en arrive à des degrés d'abstraction très puissants en mathématiques ou en physique, quand on utilise des codes qui sont très éloignés, même de la construction grammaticale des phrases, par exemple, une équation, c'est très différent d'une phrase, il y a toujours des éléments de français là-dedans, des éléments de la langue. Par exemple, un truc que moi j'ai découvert en 6e, c'est une formule française que j'ai découvert dans un cours de mathématiques, et je me souviens d'avoir été complètement abasourdi par ça, c'est la formule « soit un ensemble truc » en cours de maths. « Soit ». C'est pratiquement l'une des seuls contextes où on utilise le verbe « être » à ce mode et à ce temps. « Soit un ensemble truc », »,« soit un robinet qui truc truc ». Bon, donc, on voit bien que le français, c'est pas seulement une question de cours de français. C'est une question qui structure toute l'éducation. Comment on parle, comment on apprend à parler, et il y a des manières de parler le français en fonction des matières. Donc en mathématiques, c'est très très manifeste, hein. On n'apprend pas 30 000 trucs spéciaux aux mathématiques pour parler français en mathématiques, mais on en apprend, qui sont très singuliers. Mais même en géographie, même en histoire, on apprend il y a un lexique, il y a au moins un lexique spécifique à chaque fois. Donc tout ça est consigné dans des grammaires. Les grammairiens, on a l'impression comme ça que c'est des gens qui sont complètement marginaux, isolés, qui se posent des questions que personne ne se pose, qui pinaillent sur des détails de langue. Bon. En fait, c'est les gardiens du temple. Le truc, c'est que nous, à l'école, on n'entend jamais parler de grammairiens, mais on entend parler du bled, Donc on a des manuels, ou du Becherel. Donc c'est des condensés, ça. C'est de la vulgarisation de langue, mais ça veut dire qu'il y a des programmes qui ont été déterminés par les gens qui dirigent le ministère de l'Éducation pour dire « la langue, c'est ça ». On va prendre tel et tel grammairien, on va essayer de rendre ça relativement simple, on vulgarise et on fait une vulgate. Il y a un aspect de loi là-dedans. Donc on appelle ça des règles grammaticales. On ne dit pas des lois parce que c'est quand même, ça ferait quand même un peu facho, mais on dit des règles, ce qui est une espèce de soft power, quoi. On a l'impression que c'est un peu des règles du jeu, mais c'est beaucoup plus que ça. La langue telle qu'elle est unifiée, c'est une norme et elle est donc aliénante. Si vous ne connaissez pas la norme, par exemple, c'est très difficile d'obtenir une embauche. Si vous faites 5 fautes par mot dans votre lettre d'embauche, on risque de ne pas vous prendre. Il y a une réflexion extrêmement puissante. Ces types arrivent à articuler de l'anthropologie, de la science politique, des réflexions sur la psychanalyse, le christianisme, Artaud, la linguistique. Il faut voir que c'est des époques où les gens tombaient amoureux en parlant de linguistique. Il y a dû y avoir pas mal de couples qui se sont formés comme ça. Et pas forcément des couples de linguistes, d'ailleurs. Mais c'était vraiment une discipline, il y avait un enjeu fort, quoi. C'était comme la politique, c'était comme l'anthropologie. Les gens adoraient parler de ça. Voilà, on parle de linguistique comme on parle du temps qui fait, comme on parle du dernier concert de machin, ou des discours qui planaient dans l'air. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le postulat de la linguistique? Ils disent un truc qui est génial, qui est complètement anard, qui est dur à digérer. Bon, ils disent, en fait, n'importe quel langage commence par des mots d'ordre. Le langage, ça consiste pas à communiquer, ça consiste pas à transmettre de l'information, ça consiste à donner des ordres. Je vais pas rentrer dans les détails de cette chose, mais c'est pour vous dire que cette question de la langue grammaticale, de la langue donc annexée sur une vision centrale du langage à l'intérieur d'un pays, c'est une certaine manière, dans un certain type de formation sociale, qu'a le langage en tant que nécessairement fondé sur le mot d'ordre, de se structurer. Bon, n'importe quel langage repose sur des mots d'ordre, mais dans ces formations sociales qu'on appelle les états centraux, ça se monnaie, ça se traduit à travers l'école et la grammaire. Le langage, dans l'école, c'est d'abord pas apprendre à parler, c'est apprendre à bien parler. Donc, chez les Tarahumara, étudiés par Artaud, ça il faudrait en parler, c'est le point commun entre Castaneda et Artaud, en fait, c'est la question de l'indianité. L'indianité comme contre-modèle social, etc. Bon. Chez les Tarahumara, comme à Bali, comme chez les Dogons, comme chez les petits Français, le langage, c'est d'abord du mot d'ordre. Mais en France, aux États-Unis, en Chine, la langue s'apprend par l'école et donc par une certaine manière de normer l'orthographe, la syntaxe, la conjugaison, et tout ça de façon uniforme dans un pays, même s'il y a des spécificités qui parviennent toujours à s'exprimer. Par exemple, là, bon, je ne vais pas vous parler des spécificités du Sud, vous savez bien, mais en Savoie, où je suis en ce moment, pour dire « je vais le faire », pour dire « je m'apprête à le faire », ils disent « j'y viens ». Là, j'ai fait un atelier d'écriture avec des gamins, et il y a une réplique à la fin d'un dialogue assez génial entre deux gangsters déguisés en pizzaïolo, avec une scène de l'ascenseur à mourir de rire. Enfin, ils vont faire un casse, et puis il faut quand même qu'ils prennent l'ascenseur. En fait, dans l'ascenseur, bah, ils vont faire un casse, mais il faut qu'ils attendent. Comme n'importe qui dans un ascenseur. Et ils accèdent au coffre, il faut qu'ils brûlent les documents. Et l'autre s'excite sur l'un, et il dit, bah alors vas-y, tu les brûles. Et l'autre dit, bah oui, j'y viens. Et c'est la fin de la scène. Donc moi, j'y viens, je le dis uniquement quand je dis, bon, alors, je vous ai parlé de psychanalyse, j'y viens. C'est-à-dire dans le domaine intellectuel, quand j'ai annoncé un programme, et que je vais aborder une question. Généralement, quand on m'a dit, bon, tu vas en parler, oui, ou... Oui, oui, j'y viens. Bon, bah, les Savoyards, ils utilisent autrement. Donc il y a des spécificités qui échappent au cadenassage grammatical unifié, mais c'est pas grand-chose. Par rapport au niveau de la, par exemple, au niveau de la syntaxe, il y a très très peu de variations sur le territoire. Et la syntaxe, c'est quand même la politique de la phrase. C'est sujet, verbe, complément. C'est le verbe, le roi, le sujet, et le complément qui joue une espèce de rôle. Je sais pas, c'est la fête des fleurs, quoi, le complément. Repartir du langage comme mot d'ordre, et le truc c'est qu'ils essaient de proposer d'autres langages, ça devient génial. Par exemple, ils parlent du japonais, et ils disent que le langage, bon, le Japon c'est un état central, hein, y a pas photo, très très central. Le shogun, c'est le modèle de Louis XIV, quoi. C'est pas l'état, c'est moi, c'est l'univers, c'est moi. Bon, mais n'empêche qu'au Japon, la construction de la phrase est complètement différente. En fait, le sujet, c'est vraiment peanuts. Il y a une action atmosphérique, il y a une atmosphère mangée, par exemple, je prends ça au hasard, parce que j'aime bien Rabelais, il y a une atmosphère mangée, et il y a une incidence du sujet sur cette atmosphère. voyez. Donc c'est comme si vous imaginez Gargantua. Alors en fait, il y a surtout un énorme festin, et puis il y a une espèce de bourdon qui tourne autour, et c'est Gargantua. Voyez, c'est impossible pour un Japonais d'imaginer d'écrire Gargantua, parce que dans Gargantua, il y a un sujet énorme, justement, c'est un géant, et c'est lui qui compte, c'est sa bouche qui compte. C'est même pas l'action de manger, c'est Gargantua mange, Gargantua est mangeant, Gargantua est un appétit. Ça, pour un Japonais, c'est inconcevable. Donc vous allez plutôt avoir un festin de sushi, de thon rouge, là. Donc il y a un amas de thon rouge, et puis il y a des espèces de bourdons qui flottent autour, c'est les sujets. Voilà. Ça, par exemple, c'est génial quand on est un écrivain en langue française, et qu'on se bat avec l'apprentissage de l'école, sujet, verbe, complément. On se dit, ah ben tiens, en fait, je pourrais faire une action atmosphérique, et imaginer un papillonnage de sujets. Donc moi, par exemple, ça me donne vachement envie d'écrire une pièce de théâtre, ça. Parce que je vois vraiment ça sur un plateau. Et ça obligerait à écrire complètement différemment. Ce serait pas « je mange », ce serait « il y a un sujet que j'endosse et qui est mangeant qui, », qui se raccorde à l'action atmosphérique « manger ». Donc c'est complètement une autre manière de syntaxer, de donner une syntaxe à la phrase. Bon, mais ça reste une syntaxe impériale. C'est-à-dire que tous les sujets parlent comme ça. C'est ça la force d'une grammaire, c'est de dire « tous les sujets, au sens tous les individus, vont parler comme ça ». Bon, ce qui est intéressant avec le travail littéraire, l'un de mes grands chantiers, alors ça c'est ce que dit Deleuze dans un autre bouquin, c'est d'essayer de traiter ma langue comme une langue étrangère, d'écrire dans ma langue comme si c'était une langue étrangère. Donc c'est pour ça, par exemple, que dans Nouveaux Indiens, il y a tous ces passages où la syntaxe saute. La syntaxe telle qu'on l'apprend à l'école. Syntaxos, ça veut dire ranger avec. Tout un programme. C'est un programme d'état central. Ranger avec, c'est la grande préoccupation des états. Par exemple, les scolaires, c'est marrant, hein, les élèves, ils me disent beaucoup, même les élèves de terminale et tout ça, c'est surtout eux qui commencent à pouvoir se promener dans Nouveaux Indiens. Ils me disent, mais c'est pas bien d'écrire comme ça, vous savez pas écrire. Mais ils ont quand même vachement intériorisé la syntaxos nationale, quoi. C'est-à-dire, il y a une certaine manière de ranger les choses. L'école, souvent, transmet une vision idéaliste de l'auteur. C'est pour ça que Rabelais, on l'étudie assez vite. Que les passages dans Diderot sur les clitoris des Hottentotes, ça a été coupé dans un Garde Guichard pendant des décennies, que voilà, tout ce qui est un petit peu trop visiblement autre chose que de la belle langue, Sade, c'est complètement inimaginable. Deleuze et Guattari proposent quelque chose d'assez japonais à un moment. Ils le disent pas, mais ils disent il faudrait par exemple qu'on essaye d'écrire uniquement avec des actions à l'infinitif. Donc on arrête de conjuguer les verbes. On met un verbe, qui est donc un peu comme cette espèce d'action atmosphérique des Japonais. On met un verbe, il y a un sujet qui est raccordé au verbe à l'infinitif, donc on comprend très bien que c'est le sujet du verbe, on n'a pas besoin de l'accorder, on n'a pas besoin de... Et puis on met des dates, pour ce qui est de situer dans le temps. Et c'est pour ça qu'au début des plateaux, il y a toujours des dates. Et donc ils font des exemples de phrases, et là ils sont au bord de faire de la littérature expérimentale. En fait. Par exemple, il y a une phrase qui est géniale, qui termine un chapitre, un plateau, je ne sais plus lequel, c'est « Loup-garou pullulé 1880 ». C'est une super phrase de littérature expérimentale. Ils sont au bord de faire du surréalisme, ou du Burrow, ou même du Guyotat. « Loup-garou pullulé 1880 », c'est un petit poème. Le problème, c'est qu'en même temps, ils disent bien, il faut toujours faire tout ça, c'est là-dessus qu'il faut finir. Enfin, pour ce qui est de ce que j'ai à vous dire de ces textes, il faut toujours, disent-ils, dénaturaliser les choses, avec prudence. Parce que si vous commencez direct à écrire « Loup-garou pullulé 1880 », non seulement vous avez peu de chance littérairement, sauf dans certaines périodes, mais en plus, vous risquez vraiment de vous isoler beaucoup socialement. Quoi. Et eux, Dieu sait qu'ils ont accompagné l'émergence d'un paquet de cinglés de tous ordres, et on leur a beaucoup reproché, en fait, surtout avec l'anti-Oedipe, en fait, on leur a dit « Voilà, vous avez vu, à Vincennes, là où maintenant vous donnez cours, il n'y a que des cinglés, quoi. Et apparemment, il y avait effectivement pas mal de gens qui faisaient pas mal d'expériences. Donc, c'est pour ça que dans Mi-Plateau, il y a toute une insistance sur une démarche vitale, une démarche d'expérience dans la vie, qui est une démarche à la fois expérimentale et toujours prudente. Ils disent qu'il faut y aller doucement. Parce que la langue, parce que la famille, parce que l'État, parce que le prêtre et tout ça, bah, c'est quand même des trucs avec lesquels on s'est construit. Donc, moi, je me retrouve beaucoup dans cette prudence, en fait. Je trouve ça très important et très courageux, quelque part, qu'ils le disent, quoi. Justement, ils se font pas passer pour des punks qui font juste n'importe quoi dans tous les sens. Ils disent, voilà, faites des expériences, testez des agencements, comme ils disent, parce que... Voilà, tous les modes de structuration qu'ils essayent de dénaturaliser. Et tous ceux qui proposent à la place, ça reste des agencements, c'est des manières de faire tenir les choses ensemble, les choses ou les gens. Ils disent faites des agencements, expérimentez des agencements, mais allez-y doucement. Et c'est ça une expérience. Les scientifiques font toujours leurs expériences avec délicatesse. Je trouve ça très courageux, en fait, de finir sur cette histoire d'expérience. Le contre-modèle, pour moi, c'est un type comme Guyotat, par exemple, bon, qui est un auteur qui est représentatif d'une certaine époque et tout ça, mais c'est un type qui a commencé à écrire dans une langue qui lui était purement propre, donc c'est une langue étrangère, vraiment. Et, mais la seule patrie dans laquelle elle est parlée, c'est lui. Vous voyez ? Et du coup, c'est un exemple de marginalité extrêmement dure. Grâce à Guyotat, on peut faire des expériences. Mais l'expérience que lui a vécue, c'est un peu comme Artaud. C'est-à-dire, il a échoué, mais c'est des réussites pour nous. C'est-à-dire, effectivement, lire Guyotat à voix haute et tout ça, c'est vraiment faire une expérience du français comme langue étrangère. On sent que c'est des mots, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. C'est des formes qui n'existent pas dans le vocabulaire, qui sont hors du dictionnaire, en fait. Il met beaucoup d'arabe là-dedans, parce qu'il était très très marqué par la guerre d'Algérie. Il voulait s'arabiser, en fait. Il voulait arabiser sa langue. Il voulait être un métèque dans le français. C'était la seule manière pour lui de ne pas être un dominant, en fait. C'était de parler à la fois la langue du dominant et la langue du dominé, en même temps. D'introduire de la domination dans la langue dominante. C'est un travail politique formidable, mais pour moi, c'est l'exemple de quelqu'un qui a beaucoup souffert d'aller trop vite. Ou, c'est pas une question de vitesse, d'aller sans prudence, d'avoir aucune prudence.